Sud Radio, il est 1h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Et on est ensemble sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Arlette Chabot, journaliste éditorialiste. L'édito politique, c'est tous les lundis à 7h35 sur Sud Radio. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse. Alex Armon, journaliste politique, votre chaîne de débat politique est sur YouTube, elle s'appelle Les Indécis. Et Éric Revel, journaliste éditorialiste sur Sud Radio et votre édito, tout compte fait, à 7h20 dans le grand matin.
Je vous le conseille. Hein.
Sud Radio, oui, c'est un incontournable, le phare de la matinale, comme le phare de l'île de Ré. Xi Jinping en France, avec beaucoup de questions autour des Ouïghours, on va en parler dans un instant. Les assises de lutte contre l'antisémitisme, avec ce dossier assez inquiétant hier, que je vous conseille dans le Parisien dimanche. La mobilisation des pro-Gaza dans les lycées, beaucoup de sujets avec vous. Je pense qu'on aura évidemment pas le temps de tout traiter. Peut-être Christine, avant de revenir sur Rima Hassan et Scarlett Chabot, voulait en dire, vous aviez un coup de cœur.
Alors c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est un coup de projecteur qui illustre à quel point dans notre pays il est très difficile aujourd'hui d'avoir des débats posés et apaisés, y compris quand on parle de grands chantiers, parce que il y a un petit événement qui va se dérouler demain au nord de Toulouse. Il y a le lancement officiel du chantier du fameux TGV Le Paris-Toulouse en passant par Bordeaux. Alors pourquoi je dis c'est difficile aujourd'hui d'avoir un débat apaisé? Alors je rappelle quand même que ce LGV Sud-Ouest, hein, ça fait plus de 30 ans que le dossier a été lancé officiellement, hein, c'était à l'époque un consensus pour tout le monde. Et ce TGV, l'histoire en réalité, c'est que on avait un espèce de cofinancement entre ceux qui étaient sur le bout de la ligne et ceux qui étaient au milieu, c'est-à-dire que les gens de Midi-Pyrénées ont financé en grande partie le Paris-Bordeaux, et en contrepartie, à l'époque de d'Alain Juppé, il était convenu que quand on lançait l'autre phase du chantier, il y aurait eu un cofinancement dans l'autre sens. Donc autrement dit, c'était du donnant-donnant pour relier quand même la troisième ville de France à la capitale et plus au-delà, à Bruxelles, enfin à tout le nord de la France. Sauf que l'eau a coulé sous les ponts, ou en tous les cas les trains sont passés sur les rames. Et aujourd'hui, donc à l'heure où on lance ce grand chantier, on voit déjà des oppositions qui se mettent en place, des oppositions à la facturation qui est proposée, c'est-à-dire l'étalement sur 40 ans d'une mini-taxe pour les habitants du sud girondin, du Lot-et-Garonne, de tous ceux qui sont le long de la ligne, pour arriver au bouclage du budget de plusieurs milliards d'euros, évidemment, puisque plus on attend, plus on sait que ces chantiers coûtent très cher. Ouais. Donc on voit qu'aujourd'hui, alors que c'est un dossier structurant, hein, puisqu'on parle d'abandonner l'avion, tout bêtement, hein, pour une grande partie des utilisateurs ici à Toulouse. Je rappelle aussi qu'à Toulouse, on est quand même sur un site qui possède le premier constructeur au monde d'avions, c'est pas rien. Donc cette liaison, elle a quelque chose de structurant, y compris avec les liaisons avec le sud de l'Europe, à commencer par Barcelone, Madrid, puisqu'aujourd'hui il y a des lignes qui partent de Paris et vous pouvez rallier Barcelone en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc cette espèce d'hystérisation aujourd'hui, où ces débats-là, c'est-à-dire que même si vous faites les choses dans l'ordre, même si vous faites des consultations, même si vous passez par toutes les fourches codines que vous impose la loi aujourd'hui, eh bien il y a des gens qui vous disent ça ne sert à rien et ce n'est pas possible de faire, et vont trouver toujours la solution pour empêcher les chantiers aujourd'hui structurants. Moi, je mets ça en parallèle avec le sujet d'M6 hier soir.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
La SNCF.
C'est ce que j'allais vous dire.
TGV. Oui, mais sauf que, en faisant cette ligne supplémentaire, il va y avoir des lignes qui vont être créées pour justement désengorger des lignes qui ne fonctionnent plus. Donc en fait, c'est pas...
Mais c'est quoi une ligne qui ne fonctionne plus? Je veux dire, on est quand même, c'est ce que démontrait le reportage hier, le grand document que je vous conseille vraiment de regarder en replay d'M6, c'est quoi des lignes qui fonctionnent plus? Je veux dire, on a vu des territoires être totalement isolés, des territoires qui étaient desservis et qui aujourd'hui n'ont plus que deux trains, et encore quand ça fonctionne. Donc tout ça est quand même lamentable, et ce que nous apprenait le reportage hier, c'est qu'il y a des centaines, plus d'une centaine de TGV qui ont été supprimés. Rien ne va bien quand même dans le domaine du rail. Pardon de vous dire ça, Christine. Les prix sont élevés.
Je ne dis pas que tout va bien,
mais les prix sont élevés.
Va tout résoudre.
Mais
simplement, c'est que si on veut aussi faire des infrastructures, cette LGV va permettre aussi de désengorger, je prends schématiquement, le sud de Bordeaux. Il n'y a plus de possibilité de rajouter des trains pour faire les RER, ce qu'on appelle du quotidien, donc ces fameux trains du quotidien, et que ça n'enlèvera, en termes d'offres, rien de plus ou de moins, mais simplement, là, le débat, il est sur l'infrastructure du pays, et que si on veut sortir de l'avion, de dire on veut ni du TGV ni de l'avion, très bien, on va refaire une ligne entre... faites un essai en train du quotidien pour aller à Paris, ou tout simplement pour rallier. Et il n'y a pas que des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui prennent le TGV,
c'est
pas
bien
vrai.
Le problème.
C'est pas vrai.
Non, mais c'est bien
simplement,
le problème. C'est qu'on peut
alors,
pas,
on fait pas
si on n'est pas homme d'affaires.
Voilà.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire un TGV, mais qu'on mette de l'ordre à la SNCF, qu'on mette de l'ordre dans les tarifs, qu'on mette de l'ordre dans les dessertes aussi qui sont là. Aujourd'hui, vous voulez prendre un train pour aller à Bordeaux, je vous mets au défi de trouver une place, et quand vous en trouvez une, c'est impossible. Je sais pas, Eric, vous vouliez réagir.
Non, mais oui, parce que sur les petites lignes de train, on a vu dans une région que j'ai bien fréquentée, qui est la Côte d'Azur, comment au moment des inondations dans la vallée de la Vésubie et de la Roya, comment le seul lien qui restait entre la côte et la vallée de la Roya, qui était isolée à cause des inondations, c'était une petite ligne de chemin de fer qui a permis aux habitants d'être ravitaillés en eau, etc. Et d'ailleurs, il y a eu toute une marche arrière qui a été réfléchie. Si à l'époque, c'était tout le TGV, là, il y a des réouvertures de petites lignes parce qu'on s'aperçoit que ça désenclave quand même beaucoup. Et puis que oui, il faut pas tomber dans l'espèce d'incohérence qui consiste à dire à moins de 2 heures ou 2 heures et demie, il faut un TGV, alors qu'on développe plus de lignes de TGV et qu'on manque de petites lignes quand même en France. On manque de petites lignes. Alors je sais que c'est un coût, hein. Et puis puisqu'on parle de la SNCF, vous avez vu que Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, est convoqué pour s'expliquer sur la réforme qu'il a...
Il n'a pas réagi du tout, il n'y a pas eu de réaction de la SNCF à cette convocation
ulcérée. Alors en même temps, j'ai du mal à croire que le président de la SNCF prend une telle décision sans en parler à la puissance publique. Ça me semble...
Matignon est au courant.
Alors, vous voyez, il y a quand même un sujet. C'est-à-dire que, c'est la SNCF globalement.
Tout est possible.
Non, mais on entend ce que vous dites, Christine, mais c'est vrai que moi, je suis assez en colère... quand on voit le reportage d'M6 hier, et quand on est usager de la SNCF, si vous voulez faire un Paris-Marseille, vous avez aujourd'hui intérêt à prendre l'avion. Le train est très très cher.
C'est la question de la tarification.
C'est
beaucoup moins cher. Et à Paris-Nice, je vous rappelle qu'un Paris-Nice en train, ça passe par Marseille, et ensuite c'est omnibus entre Marseille et Nice. Donc c'est plus cher et c'est beaucoup plus long.
Bien sûr. Un mot et je vous donne la parole, Arlette Chabot, sur ces images que vous avez peut-être vues, cet article, c'était encore dans le Parisien hier, sur ces boucheries à Châteaurouge, dans le quartier de Châteaurouge à Paris, où la viande est posée à même le sol, où on voit des carcasses, même pas des carcasses, c'est-à-dire que la viande est proposée au ras du trottoir. Moi, je ne comprends pas qu'on emmerde, certains restaurateurs parce qu'ils ont un frigo qui n'est pas aux normes, c'est très bien de le faire, mais comment ça peut se faire dans la plus grande indifférence? Je voyais des habitants qui réagissaient, d'ailleurs Thierry Guerrier, qui disait moi je passe là tous les jours, il n'y a pas un flic, il n'y a pas un contrôle, il n'y a rien, et mais les images sont abjectes. On est dans le deux poids deux mesures aussi, ces habitants qui vont, les gens qui achètent là, on se demande effectivement pourquoi ils y vont, et c'est sûrement de la viande pas très très chère, donc il y a un vrai problème. Zéro police municipale, zéro inspecteur sanitaire ou des fraudes, personne n'ose intervenir, la Seine fait partie du pittoresque du quartier, tu dénonces, t'es raciste, parce que ce sont des boucheries qui sont tenus souvent par halal, entre autres.
Il y a une réglementation, se poser la question. La DGCCRF, c'est ça? On est d'accord. Qui effectivement est très vigilante. Pourquoi ils n'y vont pas? C'est une bonne question à poser. Vous pouvez téléphoner à Bercy en direct. Un truc comme ça, non?
Vous avez vu les images, Eric?
Oui, je ne l'ai pas vu dans le Parisien, mais je l'ai vu sur un réseau social. J'ai vu ça. Alors, est-ce que c'est une pratique courante? Est-ce que c'est enfin, j'en sais rien.
Non, mais c'est inacceptable. Non, mais c'est inacceptable.
Ils s'en foutent, en fait. Enfin, ils mettent la viande comme ça, ils respectent pas les règles d'hygiène.
Non, mais c'est à même le sol. La viande est à même le sol.
En plein Paris, parce qu'on se rend pas compte, les châteaux rouges, c'est en plein Paris, hein, vraiment.
Oui, absolument.
Donc, la réalité, c'est que s'il n'y a pas de contrôle, et ça date pas d'hier, hein, ça date
Mais
pas
d'un
du Parisien, ça fait des années que c'est comme ça, pour y passer souvent dans le quartier, ça fait des années que c'est comme ça, que ça n'a pas été contrôlé, que c'est pas étudié.
Christine?
Je peux vous dire qu'il y a une cuisine qui est surveillée de près en ce moment, c'est celle de l'étape du Berger au sommet du Tourmalet.
Ah oui, ça c'est sûr. Demain, visite du président chinois.
Vous voulez le menu?
Oui, allez-y, donnez-nous le menu.
Alors, puisque c'est Éric Abadie qui est un bigourdon éleveur et copain d'Emmanuel Macron depuis très longtemps, hein, donc il fait une garbure pour le président chinois avec derrière une épaule d'agneau haricot tarbé avec des têtes de cèpe et en dessert, une tarte aux myrtilles des Pyrénées, maison, donc ça va être sympa, et du Madiran pour arroser le tout. Le seul hic, c'est que le plafond va boucher la vue, donc on n'aura pas cette belle photo sur la terrasse, etc. etc. Éric Abadie, que j'ai eu au téléphone, m'a dit quelque chose de savoureux. Éric, Arlette, Alex et Valérie, il a dit, quand je lui ai dit c'est un honneur de recevoir le président chinois, il m'a dit ah non, il faut qu'il se rende compte, lui, de l'honneur qu'il a de venir dans les frères.
Super, Éric, vous voulez dire
mais bon? Oui, parce que j'ai vu que ça se déroulait à Bagnères-du-Bigorre, ensuite, parce que c'était la grand-mère
ou le grand-père d'Emmanuel Macron.
Et vous savez quel est le... Non, vous savez pas, mais je vais vous le dire. En général, quand on dit ça, c'est pour faire le malin. Mais fait, je voudrais lui adresser un salut amical. Bagnères-du-Bigorre, c'est la patrie de Jean Gachassin. C'est la patrie de Jean Gachassin, où il était huissier avant de devenir Peter Pan au rugby, sur la radio du rugby, avant de devenir patron de la FFT, Fédération Française de Tennis. Voilà, salut Jean. Je sais pas s'il est invité, mais ça serait bien qu'il nous dise.
Moi, je prendrais bien un peu de tarte aux myrtilles.
Oui, c'est possible. C'est pas mal.
Je crois que François Bayrou aussi de Bagnères-du-Bigorre. Il me semble de mémoire.
C'est la vallée d'à côté.
Bon, allez, on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de la visite du président chinois et de Rima Hassan, entre autres. À tout de suite.
Sud Radio Dax.
102.
Sud Radio.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Et nous continuerons notre tour de table avec vous, Arlette, c'est votre, votre coup de gueule.
Arlette. C'est toujours Arlette, les mêmes qui parlent.
Arlette Chabot, et vous revenez sur vous aussi l'interview hier de Rima Hassan. Je vais vous faire écouter peut-être un... on va peut-être écouter un petit extrait de ce qu'elle disait avec Benjamin Duhamel qui lui a posé peut-être 10 ou 15 fois la question, est-ce qu'il y a un génocide des Ouïghours? Écoutez un petit extrait de ce qu'elle répondait.
Donc vous ne dites pas qu'il y a un génocide des Ouïghours?
Mais dès lors que vous avez une juridiction internationale qui commence à statuer, si vous voulez, sur ça, nous avons tous pour devoir et responsabilité de relayer ce genre...
Je crois, Hassan, que ceux qui nous regardent...
Mais non, mais attendez, là vous êtes en train de simplifier.
Non, non, pas du tout.
Vous m'avez parlé d'un comité d'experts. Ouais. Est-ce que vous pouvez me citer la composition de ce comité?
Oui, notamment l'ancien juge qui était chargé de mettre en justice M. Milosevic après les massacres de Srebrenica. Mais juste, Rima Hassan.
Non, j'encourage les États, oui. Notamment la France et d'autres, qui veulent aller au bout de la défense des droits du peuple ouïghour, à aller juste devant les juridictions internationales. Encore. Et je ferai partie des premiers qui soutiendront cette initiative.
Voilà. Arlette, donc ça vous... Elle a peiné à répondre. Hein,
Oui, parce qu'il dénonce une indignation sélective à propos de Gaza, bien entendu, la France insoumise. Donc là, à propos des Ouïghours, il y a une indignation sélective aussi de la France insoumise. On rappelle brièvement, hein, les Ouïghours, ils sont effectivement musulmans, ils sont turcophones, c'est une des minorités reconnues en Chine et persécutées par le gouvernement chinois parce qu'ils sont musulmans, effectivement. Il y a 1 million de Ouïghours qui ont été détenus dans des camps. Aujourd'hui, oui. Les camps ferment, mais ils sont carrément emprisonnés. L'idée, c'est de les rééduquer. Alors, on sait ce que ça veut dire en Chine. Rééduquer, ça veut dire oublier qu'ils sont musulmans, donc pas le droit de pratiquer leur religion, oublier leur langue, oublier leurs coutumes. Ils sont condamnés à du travail forcé. Voilà ce qu'est la situation des Ouïghours qui... Pour certains, très peu nombreux ont manifesté contre l'avenue du président Xi en Chine. Alors, il y a une indignation quand même au niveau mondial. Il y a le Parlement européen qui a voté effectivement une résolution pour condamner... Effectivement, les mots sont importants. Le caractère génocidaire de l'action menée par la Chine avec effectivement crime contre l'humanité. Il y a eu en France aussi à la fois une motion du Sénat mais surtout un vote à l'Assemblée nationale après une proposition des socialistes qui a été adoptée à l'unanimité pour dénoncer la même chose. Hein, c'est-à-dire la violence contre les Ouïghours consécutive de crimes contre l'humanité et d'un génocide. Vote à l'unanimité, sauf le vote des insoumis. Pourquoi ? On retrouve ce que dit effectivement aujourd'hui Rima El Assad, c'est-à-dire, oui, c'est pas bien, mais on joue effectivement sur ce qui est juste. Hein, génocidaire, c'est défini par le droit, mais en tout cas, il y a toujours une ambiguïté. On condamne, mais, enfin, les insoumis ont été les seuls à ne pas voter, effectivement, cette motion à l'Assemblée. Donc, en matière, encore une fois, d'indignation sélective, on renvoie ça, l'accusation à la France insoumise. Et par ailleurs, il dénonce l'hypocrisie, Jean-Luc Mélenchon, de ceux qui avaient voté ce texte à l'Assemblée en janvier 2022, disant, en gros, que on participe à l'opération américaine qui consiste à, comme il l'avait dit, serrer le cou de la Chine dans le grand débat et la grande rivalité entre la Chine et les États-Unis. Donc, quand on entend effectivement cette juriste hier, on peut comprendre ses réserves. Mais moi, j'ai pas entendu de condamnation de la Chine.
Non.
J'ai pas entendu dire effectivement qu'il y avait un gros problème avec les Ouïghours. Et en tout cas, quand il y a une gauche qui défend les droits de l'homme, il faut pas compter sur la France insoumise pour faire partie de cette gauche.
Sur le deux poids deux mesures, dans l'indignation.
Ma chère Arlette, je trouve que ça permet d'y voir beaucoup plus clair dans la stratégie de la plupart des gens de l'EFI. Je dis la plupart parce qu'il y en a un qui est muet sur le sujet en ce moment, qui prépare la presse, c'est Ruffin quand même. Mais je ferme la parenthèse. Pourquoi ça nous permet de voir plus clair? Parce qu'en réalité, quand les gens de LFI sont gênés pour condamner ce que le peuple ouïghour subit en Chine, quand les gens de LFI sont gênés pour condamner, par exemple, l'écrasement à une autre époque des Tchétchènes par les Russes. Quand les gens d'Alephi sont gênés pour condamner ce que les Yéménites subissent avec des centaines de milliers de morts. En fait, tous ces peuples-là dont je parle sont des peuples musulmans. Hein. Je rappelle, ouais. les Ouïghours sont des musulmans sunnites. Arlette a raison de le rappeler. Ouais. Mais en fait, pourquoi ça permet de clarifier la situation? Parce qu'en fait, en ne défendant que les Gazaouis, et encore une fois, ils ont raison, ils subissent un massacre, les Gazaouis, mais en ne défendant que les Gazaouis, en fait, LFI se découvre en disant, en fait, c'est la haine d'Israël. En fait, c'est ça le fond du problème. Alors, on peut appeler ça de l'antisémitisme, de l'antisionisme, ce que vous voulez, mais la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire que quand vous ne dénoncez pas le Hamas et quand vous avez une indignation sur les droits de l'homme à géométrie variable, en fait, vous découvrez votre point de vue qui est celui de s'apesantir uniquement sur le sort des Gazaouis face à Israël, parce que ce qui gêne l'extrême gauche islamo-gauchiste, c'est la présence d'Israël comme État souverain. Ouais. C'est ça le fond du problème.
Oui, il y a aussi l'anti-américanisme qui consiste à dire qu'on soutient le Venezuela, la dictature vénézuélienne, parce que ça gêne personne, à Elifi. Enfin, c'est un ensemble qui est intéressant. Donc, c'est un révélateur, il a raison, effectivement, Eric. Mais franchement, là, c'est beaucoup, quoi. Hein.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Et Israël, c'est aussi l'ami des Américains, dont on retrouve aussi l'anti-américanisme. Mm. Donc, tout ça, franchement, il serait temps qu'il se passe quelque chose à la France insoumise. Mais peut-être une scission, on ne sait jamais. Lendemain des européennes, si par hasard la liste faisait un très très mauvais score, ce serait bien que certains reviennent un peu aux sources de ce qu'est une vraie gauche, peut-être dure, radicale, que certains n'apprécient pas ou combattent, mais en tout cas qui est fidèle à ses valeurs.
Oui. C'est ce qui va se passer, Arlette. Hein. Bon ou mauvais score, il y a plein de députés France Insoumise que vous n'entendez plus. Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Autain, quand même beaucoup moins. C'est quand même des grosses têtes d'affiche à la base de la France Insoumise. François Ruffin, on l'a dit, et vous ne les entendez plus. Mais c'est quand même terrible, pour parler deux secondes de la situation des Ouïghours. On accueille depuis ce matin quand même le président chinois sur notre sol. On va le recevoir en grande pompe pendant trois jours.
Qui est l'assassin des Ouïghours, hein, bah, dire comme ça.
Clairement, et j'ai pu voir grâce à vous.
Oui, il y a un reportage sur TF1 qui est formidable et d'un très grand courage par les temps qui courent, vu l'époque. La journaliste a pris des risques incroyables pour aller montrer, effectivement, tenter de montrer ce qui se passe dans les camps.
On efface une culture. C'est
complètement
la façon d'un
stérilisation
peuple.
Des femmes. Ouais. Etc.
On les suit pour pas qu'ils aillent à la prière. On les a enfermés, comme vous l'avez dit, Arlette, dans des camps.
On fait boire de l'alcool,
voilà, etc. On efface leur culture.
Mais est-ce que vous avez vu hier l'accueil des Chinois à Paris qui étaient mobilisés pour accueillir le président, pour célébrer l'arrivée du président avec leur petit drapeau, faire des scènes de liesse? Et à un moment, un journaliste, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, s'approche d'une des jeunes femmes et il lui pose une question en disant: qu'attendez-vous de cette visite? Et là, on voit tout de suite un officiel visiblement de l'ambassade qui s'approche et qui lui dit non, vous répondez pas. Donc c'est assez glaçant aussi de voir la manière dont ça se passe en France. Hein.
Après, il faut dire aussi que nous, on nous accuse de faire de la réelle politique en continuant à essayer de passer des contrats et à commercer avec la Chine. Il faut voir aussi ce qui se passe au Proche-Orient. C'est exactement la même chose avec la solidarité à l'égard des Palestiniens. Mm. Je veux dire, les relations commerciales qui se développent entre l'Arabie Saoudite notamment et la Chine, franchement, l'Arabie Saoudite ne se préoccupe pas beaucoup non plus du sort des Ouïghours. Ouais, voilà, donc chacun est renvoyé à son réalisme, point final, et on peut le regretter, évidemment.
Mais qu'est-ce qui va se passer avec cette visite
Je ne sais pas si vous avez lu, moi je l'ai trouvée hallucinante, la tribune du président chinois publiée par le Figaro.
Oui. Une page entière.
Voilà, qui est quand même une sorte de... Alors, si on est gentil, on dit que le président chinois nous décrit une vision bisounoursquesque de la situation. Mmh. Et si on est plus méchant, on se dit... ouf. Parce qu'en fait, ce qui est expliqué dans cette... aspects diplomatiques, mais moi ce qui m'intéressait le plus c'est les aspects business, économiques, commerciaux. Et là, en gros, le président chinois dit évidemment les entreprises occidentales, françaises sont les bienvenues, évidemment, alors qu'il y a 5 plaintes en cours de Bruxelles contre le business chinois qui est accusé de concurrence déloyale avec des subventions d'État qui sont absolument gigantesques, notamment, puisque Luc Châtel, le patron de la PFA, en parlait ce matin au micro de Patrick Roger, notamment sur les voitures électriques. Mais on pourrait aussi expliquer et voir comment la concurrence déloyale sur les panneaux photovoltaïques, vous savez, les fameuses énergies alternatives, ont complètement, ces subventions, décimé le secteur européen des panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire qu'en réalité, là où le business chinois passe, l'herbe occidentale ne repousse pas. Donc le décalage entre cette tribune pleine de bons sentiments
Et la réalité très dure, la réalité
c'est quand même voilà. Alors maintenant, écoutez, on n'est pas dans le secret.
Que vous avez des alliances Christine,
n'oublions pas après que c'est une tournée européenne. Certes, il passe par la France, mais après il va voir ses amis pro-russes à Belgrade et en Hongrie, et à Budapest, effectivement. Donc, c'est quand même aussi une visite qui revêt un caractère outre économique, mais en termes de géostratégie, avec ce qui se passe, le conflit et la guerre en Ukraine, il y a aussi des choses qui sont quand même importantes. Et il fait deux étapes dans des pays pro-russes au sein de l'Union européenne, alors qu'il s'arrête que deux jours en France. Donc, c'est quand même, on voit aussi toute l'ambiguïté, quoi.
On se retrouve dans un tout petit instant après cette petite pause de pub, à tout de suite.
Sud Radio Cagnes-sur-Mer.
97.9.
Sud Radio.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des uppercuts. Service dans le diner à coups des beaux motels. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzelas. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.
Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Juste un mot pour poursuivre cette conversation sur à propos des Ouïghours. Il faudrait couper le son de Christine Bouillot parce qu'on l'entend en écho. Valérie Ayet pense que la Chine commet un génocide contre les Ouïghours, mais dans le même temps, elle dit que c'est à la justice internationale de trancher.
Bien sûr, mais c'est l'argument. Le problème, c'est le deux poids, deux mesures de effectivement, à l'EFI. C'est-à-dire qu'on dit carrément génocide quand il s'agit des Palestiniens de Gaza, alors qu'on, logiquement, devrait aussi être sur la même ligne et dire c'est à la justice internationale
juste
de trancher.
Tout à fait précis, juste... Valérie, puisque j'écoutais ce matin l'interview de Jean-Jacques Bourdin avec Valérie Ayet, elle a dit à titre personnel je considère que c'est un génocide. Voilà ce qu'elle a dit, exactement.
Parce que le Parlement européen a voté, elle a voté effectivement cette résolution.
Parce qu'à la différence de Rima Hassan qui dit la ligne de mon parti. Oui, et hier dans l'interview, c'est très intéressant.
Parlons peut-être de Gérald Darmanin qui veut lutter contre les frères musulmans. On a envie de lui dire qu'il serait temps, que le constat est là et fait depuis un certain temps, mais il tire la sonnette d'alarme contre l'entrisme des frères musulmans et il appelle à une prise de conscience des entreprises, des administrations, des maires. On a envie de lui dire que la prise de conscience, elle est là. Mmh. Ils sont tous au courant de ce qui se passe. Ces chefs d'entreprise qui sont confrontés à des demandes communautaristes impossibles et contre lesquelles ils n'osent parfois pas réagir. Je me souviens d'il y a une dizaine d'années déjà, quand la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations existait, de Jeannette Bougrabe qui racontait comment elle recevait des chefs d'entreprise totalement désemparés face à des gens qui demandaient à faire la prière, face à des gens, enfin, à avoir des espaces. C'était déjà il y a plus de 10 ans.
Oui, mais d'ailleurs, c'est un sujet dans l'entreprise française aujourd'hui, qui est de plus en plus important. Mais juste, donc, sur ce grand papier dans le journal du dimanche, où Darmanin est longuement cité par Charlotte Dornelas, qui a écrit le papier, il y a deux chiffres qui m'ont marqué. Le premier, c'est que le ministre de l'Intérieur, en tout cas, il est cité comme ça, dit, à propos des frères musulmans, on est passé, depuis 2019, c'est-à-dire en 5 ans, de 50 000... personnes se réclamant ou agissant à 100 000 personnes se réclamant ou agissant pour les frères musulmans. Il dit également que le nombre de femmes voilées en 10 ans a été a augmenté de moitié ou a été multiplié par deux, enfin en tout cas a augmenté de façon exponentielle. Et puis les frères musulmans sont à tel danger, puisqu'on parlait du soutien plutôt mou des pays arabes en direction des Gazaouis, c'est que les frères musulmans sont interdits aux Émirats, sont interdits en Arabie Saoudite, sont interdits en Égypte, puisque il faut le rappeler, Anwar el Sadat a quand même été assassiné par le djihad islamique égyptien, qui est qui a pour origine les frères musulmans. Donc ce danger, c'est bien que Gérald Darmanin en prenne conscience à un mois des élections européennes et à 2 ans des élections présidentielles, mais c'est un sujet récurrent. Alors où on basculera, et les nouvelles générations l'accepteront-elles, dans un multiculturalisme à dominante musulmane dans un pays de tradition judéo-chrétienne, ou bien il se passera quelque chose. Mais on peut plus rester entre cet entre-deux à laisser croire aux Français et aux Françaises qu'il ne se passe rien, ou que si vous dites il se passe quelque chose, on vous traite, et moi ça m'arrive régulièrement sur les réseaux sociaux, de mecs d'extrême droite. Valérie, expert, est-ce que j'ai une tête de quelqu'un d'extrême droite? Bon, vous voyez, mais c'est ça l'argument aujourd'hui. C'est quand vous dites un truc comme ça, en général, les islamo-gauchistes vous disent.
Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pays où l'islam est la religion d'État, enfin, d'État est la religion officielle, je pense au Tadjikistan, des pays comme ça, où on combat cet islam politique, où les hommes n'ont pas le droit d'avoir des barbes longues, où les femmes n'ont pas le droit d'être voilées dans les services publics. Je veux dire, c'est pas du racisme français. Et la prise de conscience, Arlette Chabot.
Non, mais surtout, d'ailleurs, au fond, il faut toujours le répéter, que ce sont les musulmans eux-mêmes qui sont les premières victimes des islamistes et de la radicalité. Hein, si on revient à ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, c'est bien ça. C'est effectivement un garçon qui est tué parce que il échangeait avec la sœur de l'un de ses assassins et avait une petite flirt par SMS interposé. Donc, faut jamais oublier ça. C'est pour ça qu'on n'est pas anti-musulman, on est anti-islamiste et anti-intégriste. Voilà. Ouais. Et pour respect d'une loi. Donc, faut bien faire la différence. Jamais oublier ça.
Une auditrice me dit à lire Le Frérisme et ses réseaux de Florence Bergeau-Blaquer, qui paye le prix fort pour ce livre, où elle est protégée, ou elle a été protégée en tout cas, parce qu'elle écrit des choses qui ne plaisent pas. Et effectivement, un autre auditeur me dit de mettre cela en rapport avec ces assises pour lutter contre l'antisémitisme qui démarrent aujourd'hui. On peut faire un lien entre les deux.
Ouais, moi, je vais vous dire, je suis hyper inquiet en fait par rapport à avant. Alors, je suis pas un réac en plus normalement, mais c'était mieux avant. Ouais, je vais le dire comme ça, parce que quand vous voyez effectivement cette
attention.
Je fais un peu mon réac.
Tu vas devenir, on va te montrer doigt comme réac et extrême droite. Attention.
Vous voyez cette enquête dans le JDD dont Eric a parlé, quand vous voyez les chiffres aussi dans le Parisien hier sur la montée de l'antisémitisme, surtout chez les jeunes, je vais vous dire pourquoi je suis inquiet. C'est parce qu'avant, vous pouviez être rassuré sur le fait que ces jeunes allaient grandir et allaient se renseigner, allaient se cultiver, allaient lire la presse, allaient lire des livres, allaient regarder des journaux de télévision. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces jeunes-là, je crois que c'est 35% des jeunes aujourd'hui qui disent que c'est normal d'être antisioniste et d'une certaine façon antisémite. Ces jeunes-là qui sont tombés aussi dans le frérisme musulman, en fait, ils ont leur propre silo d'information. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils se renseignent par leurs propres canaux d'information sur les réseaux sociaux, sur X, sur Instagram, sur Snapchat, sur toutes ces plateformes-là. Et donc, ils n'ont pas le réflexe d'aller se renseigner dans les journaux, dans les médias qui sont vérifiés. Et souvent, font face à des fake news ou en tout cas à des informations qui vont rentrer plus facilement dans leur esprit. Et c'est en ça que je suis inquiet, c'est que je me dis demain, est-ce que ces jeunes aujourd'hui qu'on nous dit antisémites, antisionistes, est-ce que ces jeunes qui sont en train de tomber dans un extrémisme radical islamiste, est-ce que ces jeunes vont s'en sortir? Je vois pas en quoi et comment on peut aujourd'hui, je suis désolé, les aider, franchement, si ce n'est envoyer sur place, alors on parle de centres de, vous savez, les vraies fausses manips gouvernementales, de dire on va les mettre dans les centres de rétention pour essayer de les sortir de leur galère. Je suis vraiment inquiet pour l'avenir.
Non, mais si vous voulez, que la jeunesse ait des causes sur lesquelles elle se mobilise, ça a toujours été le cas. Moi, à l'époque où j'étais étudiant à Nanterre, puis en Sorbonne, il y avait l'UNEF-ID, l'UNEF-Renouveau, les grands débats. Bon, moi, c'était bien après la guerre du Vietnam, mais il y a toujours eu. Bon, très bien. Mais aujourd'hui, ce qui est, vous avez raison, c'est qu'il y a une radicalisation. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de débat. Il est question d'imposer une idéologie, et pour moi, je vais vous dire, pour des gens qui, soi-disant, incarnent l'élite intellectuelle, imposer une idéologie, c'est refuser de réfléchir ou de penser. Mmh. Et ça devrait être, c'est contre nature au débat intellectuel. Or, la France, dans les universités, dans les grandes écoles, était habituée à avoir un débat, parfois musclé, mais un débat. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Voilà. Le président par intérim de Sciences Po s'est couché. Bon, très bien. Et puis, je vais vous dire, je vais choquer peut-être Valérie Expert, mais je vais vous dire les choses comme je les pense. C'est que, si on considère que l'islam politique, et Darmanin le dit clairement dans cette double page du JDD, est en train de monter de manière exponentielle l'OST française, eh bien moi je défends l'idée que ma tradition à moi, celle de mes arrière-grands-parents, celle de mes grands-parents, c'est une tradition judéo-chrétienne, et abandonner ces valeurs-là, pour moi, ce serait insulter tout ce qui a fait la France avant. Voilà, ouais. Je vous dis les choses comme je le pense.
Ouais.
Si je dis pas qu'on rentre dans une guerre de civilisation, je dis simplement que si l'islam, lisez aussi la grande tribune d'Edouard Balladur
aujourd'hui dans le Figaro,
qui est très éclairante sur ce qu'il dit sur l'immigration. Edouard Balladur, c'était un centro RPR de la grande époque, vous voyez. On en est là quand même, il faut se réveiller.
Mais regardez ce qui se passe en Angleterre. Ouais. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Vous avez un candidat du Parti Vert, fraîchement élu au conseil municipal de Leeds, qui harangue les foules avec le Coran à la main.
Oui, alors je défends juste un peu l'administrateur provisoire de Sciences Po qui n'a pas cédé sur l'essentiel, c'est-à-dire la fin des relations entre Sciences Po et les universités israéliennes. Mais c'est fondamental quand même.
Fondamental, mais enfin, si vous voulez.
Il n'y aura pas de sanctions sur les étudiants qui ont...
Mais je veux dire, ça, c'était fondamental. Céder là-dessus, c'était la fin. Parce qu'en plus, alors, puisqu'il parle de débat, Eric, il a tout à fait raison, et les liens avec les universités israéliennes, encore une fois, c'est une demande qu'on trouve aussi aux États-Unis. Hein, c'est-à-dire, on considère que les étudiants sont coupables, même ceux qui manifestent dans la rue contre Netanyahou et contre l'intervention à Gaza ou la guerre telle qu'elle est menée. Donc c'est une espèce de confusion et ça amène à dire effectivement, de toute façon les juifs sont coupables. Mmh. Et on revient à la conversation précédente. Donc garder ces liens et ne pas céder là-dessus, pour moi c'est effectivement fondamental. Alors cela dit, pour revenir d'un mot sur ce que dit Darmanin qui demande effectivement...
Pourquoi effectivement, si ce n'est l'approche des élections européenne, si ce n'est la montée de Marine Le Pen, enfin Jordan Bardella, c'est ça ?
Bien sûr, parce que quand il dit qu'il veut absolument un rapport sur, au fond, l'affluence des frères musulmans en France, pour, au fond, convaincre les institutions, les élus locaux, les décideurs, je pense que, justement, les élus locaux, notamment, sont ceux qui constatent depuis très longtemps, ont été les premiers à constater l'influence des frères musulmans dans les quartiers.
Bah, évidemment.
Donc, alors, il y aura ce document. Très bien, mais on a compris aussi que le gouvernement, puisqu'il répond aussi à une demande du président de la République, suite de la loi séparatisme et de son application, on comprend quand même, je pense que le pouvoir, et singulièrement à l'Élysée, a fini vraiment par mesurer l'ampleur de la menace et de la catastrophe que représente cette implantation des frères musulmans.
Christine,
une chose sur les frères, les frères musulmans. Alors, on peut faire tous les procès du monde à Darmanin, mais ça fait quand même un moment qu'il en parle.
Bien sûr,
qu'il en parle, mais...
Oui. Et il le sait parce qu'il voilà. Est élu. Lui,
oui,
il est élu
de terrain. Donc il sait exactement.
Alors, quelquefois, on lui a même reproché d'aller trop loin. Rappelez-vous cette accusation sur Karim Benzema, le joueur de football, en disant qu'il appartenait aux frères musulmans. Donc ça fait quand même un moment qu'il en parle. Aujourd'hui, peut-être qu'il a tardé à appliquer son avis et ses demandes.
Oui. Il dit il y a un discours qui est très politique et très organisé. La victimisation permanente autour de trois concepts, le racisme d'État, l'islamophobie et les violences policières.
D'ailleurs, il rappelle que islamophobie est un mot créé par les frères musulmans. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le vocabulaire, vous voyez, ça fait partie des mots qu'on a invités dans notre lexique. Mais en réalité, vous voyez comment intellectuellement, si j'ose dire, l'entrisme des frères musulmans, à l'insu de notre plein gré, rentre dans notre lexique de tous les jours. Parce qu'en fait, ce terme n'existait pas. Ouais. Est-ce qu'on est islamophobe quand on critique l'islam politique ?
Lisez le livre de Charb, qu'on ne peut pas accuser d'être quelqu'un qui était d'extrême droite ou autre, qui avait écrit ce livre, qui d'ailleurs a été interdit d'être joué à la Sorbonne et dans plusieurs universités, l'être aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Il explique exactement la manière dont les choses sont organisées pour justement imposer ce concept d'islamophobie qui fait le jeu des racistes. On va y revenir dans un instant avec vous, Christine Bouillot. On vous donne la parole.
Sud Radio Millau.
101.4.
Sud Radio.
La la. Qu'on nous donne et celui qu'on nous prête. Il y a l'âge de nos corps et celui dans nos têtes. Il y a des gens qui dorment dehors et moi à ma fenêtre. Convaincu de mon triste sort, je finis par mon assiette. Moi cette vie j'ai cru qu'un jour j'allais en connaître le but. C'est juste qu'il faut s'armer d'amour contre tous ces fils de brutes. Pareil que l'enfer c'est les autres, mais le mien vient de l'intérieur. Faut éteindre les feux sous mes côtes, quitte à noyer mon cœur. Allô du ciel, allô de vie, à l'eau de Javel, à l'eau de pluie. La vie est belle, le temps s'enfuit. On kiffe à peine que c'est déjà fini. La la la, la la la, la 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 la. Pour se construire une vie en rose, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a le temps qui prend ces choses auxquelles on tient cruellement. Et puisque l'enfer c'est les autres, que le mien vient de l'intérieur. Faut éteindre le feu sous mes côtes, t'as noyé mon cœur. À l'eau du ciel, à l'eau de vie, à l'eau de Javel, à l'eau de pluie. La vie est belle, le temps s'enfuit. On kiffe à peine que c'est déjà fini. La la la, la la la, la 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 la. Est-ce que quelqu'un paiera un jour de toute ma solitude? Tout ce que je fais c'est par amour, même si cette vie n'est qu'une brute. J'apprendrai à me réjouir, c'est sûr, du temps que cette vie me laisse. Au lieu de pleurer le temps perdu, j'arroserai celui qui reste. À l'eau du ciel, à l'eau de vie, à l'eau de Javel, à l'eau de pluie. La vie est belle, le temps s'enfuit. On kiffe à peine que c'est déjà fini. À l'eau du ciel, à l'eau de rose, à l'eau de tout ce que tu me proposes. Je passe ma main dans tes cheveux, mon enfer s'éteint. À l'eau de tes yeux. La la la, la la la, la 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 la.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Avec Eric Revel, Arlette Chabot, Alex Darmon et Christine Bouillot. Christine, on ne vous a pas entendu donc sur ces déclarations hier dans le journal du dimanche. Enfin, c'est un article de Charlotte Dornelas, effectivement, qui explique en quoi Gérald Darmanin veut sonner la charge contre les frères musulmans, veut empêcher cet entrisme qui se fait de plus en plus prégnant. On a envie de lui dire, même si effectivement il en parle depuis longtemps, qu'il est plus que temps de réagir.
Ouais, c'est pas le premier hein, à partir à la charge, mais il y a aussi une question, un truc intéressant dans l'article, c'est quand il parle de la question du financement au sein des frères musulmans au sein de l'Union européenne, de s'intéresser à ce côté-là, et aussi le réveil européen, puisqu'on n'est pas le seul pays, effectivement, à devoir se poser des questions autour de ces sujets-là. Mais au-delà de tout ça, moi, la chose à laquelle je pensais en vous écoutant, en écoutant tous les débats qui ont eu lieu ce week-end, on parlait de Sciences Po, des lycéens et tout ça, je mettais ça en parallèle avec cette vidéo virale de l'interview de cette bénévole du secours du Resto du Cœur à Perpignan, Colombe. Qui témoignait sur TF1, Colombe, et qui dit et sa priorité, c'est que ça change, ou en tous les cas trouver un moyen de vivre dignement. Simplement on sent son désarroi et tout ça, et en fait je pense qu'il y a un tellement grand décalage entre cette réalité et tous les sujets qu'on hystérise aujourd'hui au sein de la classe politique, parce qu'il y a des échéances électorales et qu'il y a un vrai clivage aujourd'hui qui s'installe. Je pense que j'imagine qu'il y a des Français qui doivent se dire, mais où est-ce qu'on va, quoi? Vraiment, dans quelle direction va-t-on vraiment? Et la réalité des Français, c'est la fin du mois, quoi. C'est vraiment ça.
Je vois à l'instant Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance, qui dit « J'estime que le Rassemblement National et le Front National, qui n'existe plus a priori, sont des partis de préférence nationale et donc racistes. » Est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Alors que Darmanin dit des choses le dimanche, que le lundi, un sénateur de cette majorité, en gros... se permet, oui, ce genre de phrase qui est un petit peu méprisant, pour ne pas dire plus, à l'égard des électeurs du Rassemblement national.
Il a le droit de le penser,
sauf que bien sûr qu'il a le droit de le penser. Je sais pas si vous en pensez, Eric. Mais je trouve que c'est symptomatique
En fait, pourquoi est-ce que cette vidéo est devenue virale? Pourquoi est-ce que la tête d'affiche du Parti communiste français a réagi en écrivant, je crois, même une lettre à Colombe? Pourquoi est-ce que toute la classe politique s'est mobilisée? Parce qu'en réalité, c'est le symbole même, me semble-t-il, d'une partie de la société française aujourd'hui. C'est-à-dire que cette femme était très émouvante dans son témoignage, parce qu'elle vous explique qu'elle est au RSA, qu'elle n'a pas de job, qu'il n'y a plus d'entreprise, qu'il n'y a plus d'emploi là où elle est, qu'elle vote RN, et toute cette misère du monde. Et en plus, non seulement elle est pauvre, elle n'a pas de travail, mais en plus, elle aide bénévolement au Resto du Cœur. Et les Restos du Cœur, parce que paraît-il que dans la charte, j'ai pas lu, mais il faut être sur une neutralité politique absolue. En gros, lui demande de démissionner ou l'exclut de son bénévolat. Et en fait, elle devient, à l'insu de son plein gré, Colombe, le symbole de cette France qui souffre en silence. Bon, nonobstant le grand mouvement des Gilets jaunes il y a plusieurs années. Et donc, en fait, voilà. Pourquoi est-ce que tout le monde, finalement, a une position sur Colombe? Mais pardonnez-moi, est-ce qu'elle est exclue parce qu'il faut une neutralité au Resto du Cœur, ou est-ce qu'elle est exclue parce qu'elle dit qu'elle vote RN? Vous voyez, c'est un vrai sujet. Eh bien, je suis persuadé que ça, comme d'autres choses, ne font qu'encourager le vote national dans ce pays. Parce que cette femme a été méprisée, oui, par certaines personnalités politiques au début. On a dit « Ah, c'est ça, les électeurs du RN !» Vous voyez, ce sont des mauvais calculs. Elle représente quelque chose de cette France qui souffre au quotidien, cette femme.
Bien sûr. Non, mais c'est...
Franchement, on oublierait presque qu'il y a des élections dans un mois, en vérité. Parce que tout le monde parle de tout, sauf du plus important, c'est-à-dire, comme l'a dit Christine, effectivement, la fin du mois des Français. C'est-à-dire que c'est le dernier sujet de conversation aujourd'hui, et quand vous avez une dame, comme vient de le dire Eric, qui parle avec ses tripes, en quelque sorte, qui dit, voilà, moi, c'est compliqué pour moi, et qui, c'est son choix, c'est aussi ça, la démocratie, c'est de voter pour qui on veut, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de débattre, justement, il faut débattre sur les vrais sujets de fond, le pays, il est à feu et à sang, alors que dans un mois, on a des élections européennes, et on parle, et je le disais en début d'émission, je suis désolé, mais on parle de tout, sauf de l'Europe et des Français. Ouais. De tous les sujets. C'est-à-dire qu'on avait une crise agricole, on a l'impression qu'elle a complètement sauté, vrillé. On parlait il y a quelques jours du budget français et de l'état de faillite de la France. On en a parlé pendant 2 heures et c'est terminé. Et par contre, dans un mois, il va falloir aller voter. Je pense que vous allez dans la rue aujourd'hui, vous demandez à des Français, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une élection européenne à la fin du mois? Ouais. Personne n'est au courant. Et non, on verra bien, d'ailleurs, les chiffres de l'abstention. Là où l'élection européenne, il faut bien le dire, est l'élection qui rassemble le moins, au passage. Donc, on a un vrai problème d'engagement et de faire en sorte de concerner les Français à ces élections. Moi, ça m'angoisse aussi un peu.
Juste répondre à un auditeur qui me dit quoi? Un sénateur n'a pas le droit de dire que le RN est raciste. C'est pas ce que je dis. Il a le droit de le penser et de le dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas la bonne méthode, pour empêcher les gens de voter Rassemblement National, que de leur dire, de leur hurler à la figure qu'ils sont racistes. Il y a peut-être des choses un petit peu plus subtil, justement, si on veut éviter le RN d'arriver au pouvoir. Des millions de jeunes votent RN, me dit Marie, et ça commence à bien faire de mettre au banc de la société tous ces électeurs. Il me semble que ce parti n'est pas interdit, c'est à l'instant, elle vient de m'écrire ça. C'est pas tellement qu'ils le disent ou qu'ils le pensent, c'est l'argument de dire...
Quand
il n'y a plus rien à dire.
En fait, quand vous interrogez des électeurs du Rassemblement National, alors je ne vais pas dire que c'est vrai pour chaque interview d'un électeur du Rassemblement National, quand vous dites, mais quelles sont vos motivations? Ils ne connaissent pas, ces électeurs, sur le bout des doigts, le programme économique du Rassemblement National. Ils ne connaissent pas, sur le bout des doigts, la position européenne, qui a beaucoup varié, du RN. Non, ce qu'ils vous disent, souvent, c'est, en fait... En gros, on a essayé tous ces guignols, là, pendant des années, les partis de gouvernement, le PS, le RPR, le truc, le machin, le bidule. Bon, aujourd'hui, vous nous dites que le RN, ils sont pas fréquentables, mais attendez, nous, on en a tellement soupé des autres que de toute façon, ça nous coûte quoi d'essayer? Ça, c'est un argument central. Et c'est pour ça que là, avec le vent qui porte aujourd'hui Bardella et le RN, peut-être en direction du pouvoir, le très bon livre d'Arnaud Benedetti sur le RN aux portes du pouvoir. En fait, c'est l'argument qui sert de carburant au vote. C'est-à-dire, mais vous nous proposez quoi d'autre? Vous nous dites que ces gens sont pas solides, sont ceci ou cela, mais on a essayé les autres et on est dans la même situation, voire pire. Donc ça sert à quoi? Voilà. Ça, c'est, alors un peu peut-être court, mais c'est ce qu'on entend. Et qui est une forme de, pardonnez-moi, de bon sens politique, en fait. Ils ont tout essayé, ça leur a rien donné. Pourquoi est-ce que vous empêcheriez d'essayer autre chose?
Moi, je trouve ce qui est très important dans le témoignage de Colombe, c'est pourquoi vote-t-elle pour le Rassemblement National? Parce que c'est le seul parti où elle a l'impression d'être écoutée.
Et de comprendre.
Et surtout d'être acceptée. Certains disent ils n'ont pas honte de nous. C'est-à-dire, au contraire, ils nous valorisent, quoi. Ceux du tiers-État, si j'ose dire, les plus pauvres, les plus démunis. Et c'est un espoir. Donc je trouve que c'est une leçon. On peut condamner, on peut dire qu'elle se trompe, etc. Mais honnêtement, c'est un message très fort qui est donné à tous les partis politiques, et notamment à la gauche, qu'on sait depuis longtemps à abandonner un peu les classes populaires, et se tourne vers un autre électorat, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure de la France insoumise. Mais je pense que c'est une vraie leçon. Certains l'ont compris, on disait tout à l'heure François Ruffin, et il y en a d'autres au PC aussi qui disent, mais qu'est-ce qu'on rate? Pourquoi on les écoute plus et pourquoi ils ont le sentiment de ne pas être écoutés par nous et de pris en charge? C'est la leçon fondamentale.
Christine, un dernier mot?
Oui, après, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'elle vote RN en disant ici, il n'y a pas de travail. Elle est à Perpignan, ville tenue par Louis Alliot quand même. Donc, il y a quand même une espèce de paradoxe par rapport à ce qu'elle peut dire, où elle se sent démunie. Perpignan est quand même la plus grosse ville de France tenue par un RN. Donc, ça peut aussi interroger en termes journalistiques, en termes d'enquête, sur... Économiquement, qu'est-ce qui a été fait pour permettre à des Colombes et d'autres, du côté de Perpignan, gros bastion aussi, des Gilets jaunes à une certaine époque, de retrouver un sens et une direction économique qui puisse répondre à leurs attentes. Elle est au RSA, donc il faut vraiment qu'on se pose la question sur qu'est-ce que la mairie de Perpignan, ou en tous les cas le RN local, a pu faire pour Colombes aussi.
Oui. On a un auditeur régulièrement, un ancien journaliste de France 3, qui me raconte qu'à la retraite, il n'a pas assez pour vivre et qu'il était obligé d'aller faire la plonge dans des restaurants ou de faire chauffeur pour des personnes handicapées. Sinon, il ne peut pas survivre avec ce qu'il gagne aujourd'hui. La réalité des Français, effectivement, les plus pauvres, a besoin d'être entendus. C'est certain quand on voit effectivement ce qui a provoqué l'interview de Colombe. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Bercoff.
Vous reviendrez.
Sud Radio Agen.
102.3.
Sud Radio.
Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore.
the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down on my knees.
Sud Radio.
Sud. Radio.
On défie l'ennui du monde, nous crée. Le soleil s'éteint sur nos destins. On court à l'essai, à perdre au pire. J'ai cru que tu m'as. Cette lune, on...